Alors, on a montré un travail hier, Phonographie 3, les cérémoniales et Laurence. Je ne vais pas trop parler de ce travail-là parce qu'on est en train de le faire et l'analyse d'une recherche-création, ça demande un peu de temps. Donc, je vais parler un peu des travaux qui nous ont amenés à cette dernière expérience que certains ont pu vivre avec nous hier soir. Mais d'abord, je vais vous parler de l'émancipation du son. Donc, à partir d'une recherche-création au sein de la chaire de recherche, on tente de disjoindre pour déhiérarchiser les composantes scéniques. Bon, ça a été beaucoup nommé par Carole, de manière à émanciper le son des actions dramatiques et à explorer de nouvelles écritures de plateau. Cependant, l'émancipation du son au théâtre ne revient pas à faire en sorte que le son subordonne à son tour les autres instances scéniques, sachant que la force de manipulation du son, elle est vraiment importante. Mais à produire une force plutôt d'articulation qui produisent le plus souvent des accords de faux raccords, comme dirait Jean-Luc Godard, ou des mouvements de divergence, comme dirait Didier Berman, concernant l'esthétique symptomale, non seulement sur le plan du récit, mais aussi sur le plan des médias. Sortir le son du statut décoratif et explicatif à l'action dramatique s'est produit lorsqu'on a commencé à expérimenter des notions d'art sonore, notamment, je vais très vite, hein, ce n'est pas vraiment un récapitulatif historique que je veux faire, c'est arriver à la phonographie, à travers l'exploration de la plasticité d'objets sonnants, c'est-à-dire des objets en train de sonner, comme dit Daniel Dehay, et non pas des objets sonores qui sont plutôt une mesure en musique, qui peut être un vrai objet organique, mais aussi numérique, qui génère un son, soit naturellement, soit par manipulation. Cette approche tactile et matérielle du son a influé sur notre conception comme sur notre présentation du texte. Le travail sur et de la voix a déplacé la fonction dramatique du texte. Le texte n'est plus seulement désiré pour le message qu'il véhicule, pour le drame de l'action qu'il organise, mais pour la capacité physique de son verbe. Bon, Carole, encore une fois, nous a montré des exemples formidables de ce rapport physique au verbe. Le texte, pour transmettre du sens au théâtre, appelle le corps, et avant tout, le corps de la voix, comme dirait Paul Zumthor. Dans le colloque que nous avions organisé en 2016, que Catherine mentionne un petit peu dans le résumé, les pratiques contemporaines de l'écriture textuelle pour la scène, nous soulignons que ce corps du texte relevait aujourd'hui davantage d'une corporité, et toc, on en reparle encore, tel que pensé par Michel Bernard, dans le sillon de Deleuze et Guattari qui dégage une réalité mouvante, mobile, instable, faite de réseaux d'intensité et de force, une corporité textuelle qui se redéfinit par des expansions à d'autres univers, donc le son, l'image, le réseau social, l'environnement, les technologies, mais aussi à travers d'autres enjeux. On rencontre des corporités textuelles qui semblent alors émaner directement d'un contexte réel ou scénographique, s'y mêler jusqu'à s'y confondre. L'auteur incorpore le paysage jusqu'à réunir l'espace et le contenu tant dans les mots que dans une présentation in situ de la forme qui en émerge. Ces œuvres parfois appellent une approche phénoménologique et événementielle, tant elles parviennent à une circulation incessante, voire une confusion entre la corporité textuelle, l'action et le contexte. Je reviendrai sur cette idée de confusion, de dispersion. Or, dans ce colloque, nous n'avions pas assez abordé, me semble-t-il, ce qui précède, donc je l'ai un peu nommé tout à l'heure avec Francine, autant le son que l'écriture, c'est-à-dire l'écoute. Avant même que le performeur produise un son, il se confronte à une écoute qui intègre un temps d'abandon, d'errance, de perte, peut-être plus important, comme le suggère Daniel Dehay, que l'acquisition d'un son capturé ou d'un texte posé sur un écrit. Aujourd'hui, cette approche écologique du son et du texte, qui nous semble le moteur d'une nouvelle conceptualisation de la dramaturgie sonore, développe son écoute, qui pourrait être une sorte de dimension élargie de la perception. Ce qui fait dire à Éric Vautrin que finalement le théâtre serait moins un art sonore qu'une discipline de l'écoute. Je roule. Alors, qu'est-ce que j'entends par écoute? Je m'intéresse surtout à l'écoute corporéisée. Les mentions de la conception sonore dans le texte dépendraient avant sa conception et sa diffusion de sa manière d'écouter, d'être à l'écoute. Une approche qui s'inscrit dans une culture auditive et particulièrement dans la question de son oralité. Alors, oralité, A-U-R-A-L-I-T. Ce principe qui frotte entre l'audible et les conditions de ce qui est entendu caractérise la part expérientielle de notre dramaturgie sonore. Pour Kentrick, le concept d'oralité, je la cite, englobe l'anatomie et la réalité de l'oreille, le sens de l'ouïe et l'engagement de l'écoute, le corps sensible et la matérialité du senti, la vibration et la résonance, et tout ce que l'on perçoit, le son, le silence, le bruit. Il s'agit d'une oralité qui fait corps, une oralité qui met au centre le corps comme producteur même d'oralité, qui fait du corps du performeur son canal à cette oralité. Elle rejoint le concept du corps oral chez Ross Brown, qui le définit comme l'acte d'une écoute corporéifiée de la part d'un corps possédant lui-même le pouvoir de produire des sons. Ainsi, l'oralité, au-delà de l'auriculaire, concerne les voix et les moyens permettant de diffuser et de produire ce qui est entendu. Vous allez voir, ça paraît un peu confus là, mais je vous ai donné des extraits tout à l'heure. Une vaste expérience de la perception allant de l'oreille jusqu'au corps, du corps jusqu'à l'espace sonore qui l'entoure et vice-versa. Cette attention au sens de tendre vers, au son, fait de nous surtout des écoutants, des promeneurs écoutants, nous dit Chion, pour lesquels l'écoute n'est plus seulement une projection d'analogie ou un état de compréhension, mais déclenche une action, donc « act of listening », a dit Griffiths, à percevoir des accords complexes entre des matériels, des matières pardon, hétérogènes sur le fait, mais aussi dans notre mémoire et dans le silence. Pour repérer l'affection de l'écoutant en désir de capter un événement sonore, il nous paraît pertinent de nous pencher sur la pratique de la phonographie, si présente dans les arts sonores, comme mode d'inspiration pour l'écoute d'un corps pour un texte en devenir. Donc, la phonographie comme action d'écoute. Avant d'arriver à la phonographie, je vais juste un petit peu me pencher sur la notion de mobilité qui, effectivement, a été un axe très important pour les dernières années dans la chaire. Donc, à l'instar de Daniel Dennehy qui revendique une place spécifique au constructeur sonore en affirmant que seul celui qui produit le son peut l'inventer et le mettre en scène, il nous a semblé que derrière le son mis en scène devait se situer le vécu sensible d'un son saisi par l'artiste lui-même. On fait plein de voyages. Pour ce faire, il nous a fallu sortir de notre théâtre, de notre territoire connu, qui correspond à ces architectures théâtrales contemporaines, le plus souvent conçues pour favoriser une acoustique neutre et égale. C'est un peu comme ça, en tout cas, au théâtre à Lucas, c'est une boîte noire. Voilà. Donc, il n'y a rien, c'est juste très très neutre. Une fois hors les murs du théâtre, un changement radical de réalité sonore et de méthodologie redéfinit notre concept de dramaturgie sonore. Grâce à l'allègement des outils numériques, nous pouvons accéder à une véritable mobilité géoculturelle et vivre des temps d'immersion étrangers au processus traditionnel au théâtre, au sein d'une écologie urbaine ou rurale. Ce tournant spatial pour un son du théâtre qui se bâtit à partir du monde qui nous environne s'associe évidemment aux Sound Studies qui revendiquent l'éminence du son comme une modalité de connaître et d'être dans le monde. Et aussi comme le Sound Art qui s'attache à l'espace réel et concret. Plus spécifiquement, on va le voir tout à l'heure, notre quête sonore trouve écho dans l'art sonore mobile que Frauke Behrendt, dans sa thèse de doctorat, très bien définie. Démarche d'autant plus accessible qu'aujourd'hui, j'ai déjà dit, nos appareils de numérique sont toujours plus légers, téléphone, tablette, liseuse, ordinateur, portable, micro, etc., caméra, enregistreuse, autonome en énergie, important, relié de plus en plus facilement au réseau Internet, capte, compose et diffuse en temps réel. Un déplacement qui n'est plus seulement considéré comme le cadre d'exploration, mais aussi comme une instance propre à générer l'œuvre elle-même, qui n'est plus perçue comme réalité feinte, mais comme l'occasion et l'endroit d'une expérience performative étendue aux coordonnées de l'espace réel. Ça paraît compliqué, mais tout à l'heure aussi, je vous montrais un truc. L'artiste sonore se déplace avec son sujet, crée la forme dans le déplacement, aller sur place, suivre l'autre, enregistrer, monter, transmettre. Une évolution exponentielle de la mobilité dans les arts qui ne se mesure pas tant en distance parcourue que par le fait qu'elle touche toujours plus à l'ensemble des étapes de la création, de la conception à la diffusion. Alors c'est là que la pratique de la phonographie s'est avérée une démarche assez pertinente et opératoire. Je résume un petit peu. Donc en 1960, François Bernard Mach, donc un concepteur sonore en France, propose le terme de phonographie pour des pièces qui donnent à entendre des paysages sonores quasiment intacts. Si ces enregistrements environnementaux non modifiés s'inscrivent dans l'ordre des savoirs musicaux, il s'agit davantage de mettre en jeu un savoir écouté plutôt qu'un savoir-faire. Aujourd'hui, la phonographie épouse et se démarque de la problématique exacte. Comment dire ? À la fois, c'est d'une problématique musicale, mais à la fois, elle s'en démarque. Le concept met en valeur l'idée que écrire l'audible consiste à privilégier la captation du son sur sa production, de manière presque aussi sur son invention, de manière à découvrir des sons plutôt que de les inventer. L'intention de cette captation sonore est davantage une question d'approche, de façon de voir les choses, que de création d'œuvres acoustiques en tant que telles. En ce sens, le phonographiste s'intéresse à l'écologie sonore au contraire du documentariste. Il considère aussi tous les événements qui replacent la faillibilité, on en revient là, du sujet de son corps dans l'encours de l'événement, d'une écoute qui divague, comme nous dit Peter Zandi, défaillance de la technologie, défaut de manipulation, commentaire inopiné, tout est bon dans la captation du phonographiste ou du phonographe. Il ne s'agit pas d'un document où le phonographe n'existerait pas. En tant que chercheur créateur, si la phonographie retient notre attention pour revitaliser la dramaturgie sonore au théâtre, c'est aussi en raison de son engagement physique à écouter. Le plus souvent, l'œuvre phonographique tient compte de la trajectoire et de la dynamique d'attention corporisée dans le monde. Ça, c'est Sven Hardison qui est cité par Home Cook, menant vers un son. De notre côté, nos expériences phonographiques, nous nous déplaçons avec des outils allégés, comme j'ai dit, vers des lieux inusités pour faire en sorte que la captation sonore soit une expérience d'écoute d'abord sensible, mais aussi performative, qui, au-delà de l'exploration, nous entraîne dans une relation complexe, plurielle, inattendue d'une culture sonore spécifique. Aussi, le travail d'écoute ne concerne pas uniquement l'enregistrement sonore, mais se manifeste aussi à travers des captations vidéo, des photos, des notes manuscrites, des objets glanés et bien sûr des souvenirs. C'est à partir de cette diversité et de cette mobilité que nous faisons œuvre. À cet égard, nous n'anticipons pas l'œuvre qui peut surgir de cette étape immersive. La forme artistique, comme son processus, s'élabore selon les environnements, les rencontres, la nature des captations, mais aussi le traitement dramaturgique. Je vais vous montrer trois extraits. Un premier extrait, ça date de 2012. Je dirais que c'est la première expérience qui nous a donné confiance pour être dehors, sortir du théâtre. Donc c'est un travail que j'ai réalisé avec une douzaine d'étudiants. D'une part dans la forêt du parc des Laurentides, donc à Simoncouche. On était dans un chalet, dans le bois fort là, comme on dit. Et puis après on est allé à Bogota. Donc pour faire un contraste, mais c'est un extrait que je vais vous montrer avec Andréane Giguère qui est là, Anne-Marie Wallette. J'ai demandé aux étudiants d'aller dans cet environnement et puis de rien faire, juste d'écouter, voilà, de s'immerger. Vraiment, tout le monde est en panique là, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, j'ai rien à vous dire, vous ne faites rien, vous asseyez, vous avez envie de promener. Puis on est payé pour ça, oui, vous êtes payé pour ça, vous êtes nourri, vous êtes logé, c'est formidable. Lâchez-vous, écoutez. Puis évidemment, au bout de quelques jours, cette écoute est devenue un corps en action et a produit plusieurs œuvres in situ, complètement folles, je dois dire, notamment L2, là. Elles ont fini par construire une baraque en plastique dans laquelle elles ont vécu, puis la neige leur est tombée dessus. Pourtant, c'était au mois de mai. Mais là, je vais vous faire écouter juste un moment où elles étaient là dans le paysage, et puis elles ont branché leur enregistreuse, et puis elles se sont mises à parler.
Je me demande si on est capable d'entendre le silence entre le passage de deux voitures.
C'est tellement bruit dans la nature que je ne suis pas sûre qu'on peut entendre le silence.
Ouais, mais au moins le silence des voitures. Le silence de la ville. J'ai l'impression ici d'être loin, au milieu de nulle part, mais les voitures me rappellent à quel point on n'est jamais vraiment loin.
Il y a toujours un écho qui suit les voitures, donc.
Ouais.
C'est une trace de ville qui reste toujours. Le reflet dans l'eau, il double le paysage pour bouger les lumières de tout, de communication.
De l'autre côté du lac, il y a un homme qui habite dans une cabane. Il s'est isolé là, on ne sait pas pourquoi. Il paraît qu'on ne peut pas l'approcher parce qu'il attend les canons avec une carabine à l'épaule.
Alors, c'est étonnant, c'est comment l'écoute, la description, comment ils intègrent tout, là, ce qui leur arrive. Puis cette corporéité fictionnaire dont parle Michel Bernard, c'est-à-dire qu'elles partent vers une création, vers une invention d'un petit récit, là. Voilà, donc c'était déjà ça que je voulais vous faire entendre, c'est comment ce bruissement des voix en écriture arrive comme ça à créer... C'est à créer un travail de... c'est-à-dire comment le son, comment l'écoute affecte, je dirais, la prise de parole et puis motive une certaine, un certain acte d'écriture qu'elles vont déployer après de manière complètement exubérante. Je ne peux pas vous montrer les photos là, mais vous irez voir sur le site. Vraiment dans la boue, elles ont tout fait. Et surtout comment l'atmosphère, hein, c'est Hook qui dit ça, je cite juste Hook, une atmosphère n'est pas un contexte inerte, mais un champ de force dans lequel on se trouve. Elle n'est pas l'effet d'autres forces, mais un effet vécu, une capacité d'affecter et d'être affecté, le fait d'accorder ses sens, ses actions et son imaginaire à des façons potentielles de vivre dans ou à travers les choses. Donc je trouvais que c'était très intéressant de... cette chose qui paraît rien est déjà toute une machine qui se met en route. Je vais vous montrer un autre travail. C'est la première phonographie avec Charles Buckel. Charles Buckel est un étudiant en théâtre qui est de la communauté de Mastéouillache, sur le bord de lac Saint-Jean, donc les îles Nous. On a travaillé avec lui parce qu'on avait déjà travaillé avec Mastéouillache et puis il était là dans mon cours. Et je lui dis, écoute Charles... emmène-moi quelque part où tu vas me former à une certaine écoute, d'un lieu où tu vas être le formateur de mon écoute dans ce lieu. Il me dit, je t'amène dans mon territoire de chasse, territoire familial. Et puis on est allé là-bas, et puis ça a été une suite d'impossibilités. On n'a pas les clés, la barrière est fermée, on ne trouve pas le camp de chasse. Etc. Et là, cette image que vous voyez, c'est donc on allait vers le creek à sa grand-mère, dernière visite, et un castor avait fait déborder le lac, il avait construit là. Donc il était vraiment tabernouche là, et il a dit, puisque c'est comme ça, je vais pêcher dans cette flaque d'eau. Évidemment, il n'a rien pêché. Et on rentre à l'UQAC de cette immersion formidable, mais assez rock'n'roll quand même. On s'est fait bouffer par les mouches noires et les mouches, et les moustiques, mais avec des impressions très très fortes. Et on demande à Charles de nous faire revivre, de revivre ce moment-là. C'est très beau, c'est un passage, vous pouvez le retrouver sur le site, c'est un passage où il nous raconte ce que lui a vécu devant cette flaque d'eau-là. Et les mots lui sortent comme ça dans un souvenir, et c'est formidable. On a l'impression qu'il écrit en direct, une espèce de capacité de conteur. Puis on a repris ce travail-là. On l'a enregistré, on a imprimé le verbatim, puis on a réécrit. Donc c'est ce que je voulais dire tout à l'heure à Francine, c'est comment il y a eu un phénomène d'écriture. Et on a joué donc la scène. L'autre chose, la dernière expérience qu'on a menée, puis je vais m'arrêter là, juste pour dire que on est allé cette fois, on a vraiment misé sur l'idée que le corps devait être le centre de notre travail d'écoute. Donc j'ai fait venir des danseurs de France, Emmanuel Huyn et Mathieu Dose. Emmanuel Huyn est chorégraphe assez connu en France, et Mathieu Dose est ce qui dit qu'il est sonographe, dans le sens où il écrit le son, mais c'est aussi un danseur. Et donc avec eux, on a mis en place comme ça tout un travail de déambulation dans le village de Valjalbert, donc un ancien village fantôme qui a été complètement récupéré par l'industrie touristique. Mais là, il n'y avait personne. Donc on a vécu vraiment la chute, les maisons complètement cabossées, etc. Et avec ces gens-là, on a décidé que le corps n'était pas juste organique et qu'on pouvait aller un peu plus loin, et on a décidé de mettre en place tout un travail avec les spectateurs. On a mis en place une web radio. Avec cette web radio, on pouvait transmettre en direct des choses qui se passaient dans nos expériences. Ce travail avec les spectateurs a eu vraiment une influence sur la conception du texte. Donc le texte est devenu une sorte de constellation. À un moment donné, on a rencontré une géologue qui nous a fait tout un parcours, et elle parlait de l'escarpement des lignes de faille pour expliquer ce que c'est qu'une chute, la chute à Val-Jalbert est plus grande que celle de la chute du Niagara. Et c'était ça, c'est ça qui s'est produit aussi dans le texte. Et c'est le texte, plusieurs sortes de matières textuelles se sont choquées les unes dans les autres. Pas du tout pour les réconcilier, mais dans quelque chose au contraire de dispersif, de conflictuel, de mise en débat. À l'intérieur de ça, avec la possibilité pour le spectateur de circuler surtout et de faire ses propres choix. Donc on en revient à des notions que Carole a énoncées. Mais je voulais vraiment arriver à ce corps qui nous a mené vers un texte de plus en plus éclaté, donc un corps textuel qui a généré un dispositif dispersif très important, qui en est resté à une étape de performance. On n'a pas pu aller plus loin, on ne voulait pas aller plus loin pour ne pas régler le sort à cette dispersion.
Voilà, merci.